ici, continuai-je, une chose que je ne puis comprendre. C'est qu'un lieu si différent de ce qu'il était ne peut être devenu ce qu'il est qu'avec de la culture et du soin. Cependant, je ne vois nulle part la moindre trace de culture. Tout est verdoyant, frais, vigoureux, et la main du jardinier ne se montre point. Malgré tout ce qu'on vous a dit, me répondit Julie, vous jugez du travail par les faits, et vous vous trompez. Tout ce que vous voyez sont des plantes sauvages ou robustes qu'il suffit de mettre en terre, et qui viennent ensuite d'elles-mêmes. D'ailleurs, la nature semble vouloir dérober aux yeux des hommes ses vrais attraits, auxquels ils sont trop peu sensibles, et qu'ils défigurent quand ils sont à leur portée. Elle fuit les lieux fréquentés. C'est au sommet des montagnes, au fond des forêts, dans des îles désertes, qu'elle étale ses charmes les plus touchants. Ceux qui l'aiment et ne peuvent l'aller chercher si loin sont réduits à lui faire violence, à la forcer en quelque sorte à venir habiter avec eux. Et tout cela ne peut se faire sans un peu d'illusion. À ces mots, il me vint une imagination qui les fit rire. Je me figure, leur dis-je, un homme riche de Paris ou de Londres, maître de cette maison, et amenant avec lui un architecte chèrement payé pour gâter la nature. Avec quel dédain il entrerait dans ce lieu simple et mesquin, avec quel mépris il ferait arracher toutes ses guenilles, les beaux alignements qu'il prendrait, les belles allées qu'il ferait percer, les belles pattes d'oie, les beaux arbres en parasol, en éventail, les beaux treillages bien sculptés, les belles charmilles bien dessinées, bien équarries, bien contournées, les beaux boulingrins de fin gazon d'Angleterre, ronds, carrés, échancrés, ovales, les beaux ifs taillés en dragon, en pagode, en marmousé, en toutes sortes de monstres, les beaux vases de bronze, les beaux fruits de pierre dont il ornera son jardin. Quand tout cela sera exécuté, dit M. de Volmar, il aura fait un très beau lieu dans lequel on ira guère et dont on sortira toujours avec empressement pour aller chercher la campagne. Un lieu triste, où l'on ne se promènera point, mais par où l'on passera pour s'aller promener, au lieu que dans mes courses champêtres, je me hâte souvent de rentrer pour venir me promener ici. Au lieu que dans mes courses champêtres, je me hâte souvent de rentrer pour venir me promener ici. Je ne vois dans ces terrains si vastes et si richement ornés que la vanité du propriétaire et de l'artiste, qui toujours empressé d'étaler l'un sa richesse et l'autre son talent, prépare à grands frais de l'ennui à quiconque voudra jouir de leur ouvrage. Un faux goût de grandeur qui n'est point fait pour l'homme empoisonne ses plaisirs. L'air grand est toujours triste. Il fait songer aux misères de celui qui l'affecte. Au milieu de ses parterres et de ses grandes allées, son petit individu ne s'agrandit point. Un arbre de 20 pieds le couvre comme un de 60. Il n'occupe jamais que ses 3 pieds d'espace et se perd comme un ciron dans ses immenses possessions. L'erreur des prétendus gens de goût est de vouloir de l'art partout et de n'être jamais content que l'art ne paraisse. Au lieu que c'est à le cacher que consiste le véritable goût, surtout quand il est question des ouvrages de la nature. Que signifient ces allées si droites, si sablées, qu'on trouve sans cesse, et ces étoiles par lesquelles, bien loin d'étendre aux yeux la grandeur d'un parc, comme on l'imagine, on ne fait qu'en montrer maladroitement les bornes. Voit-on dans les bois du sable de rivière, où le pied se repose-t-il plus doucement sur ce sable que sur la mousse ou la pelouse? La nature emploie-t-elle sans cesse l'équerre et la règle? Ont-ils peur qu'on ne la reconnaisse en quelque chose malgré leurs soins pour la défigurer? Enfin, n'est-il pas plaisant que, comme s'ils étaient déjà las de la promenade en la commençant, ils affectent de la faire en ligne droite pour arriver plus vite au terme? Ne dirait-on pas que, prenant le plus court chemin, ils font un voyage plutôt qu'une promenade et se hâtent de sortir aussitôt qu'ils sont entrés? Que fera donc l'homme de goût qui vit pour vivre, qui sait jouir de lui-même, qui cherche les plaisirs vrais et simples, et qui veut se faire une promenade à la porte de sa maison? Il la fera si commode et si agréable qu'il s'y puisse plaire à toutes les heures de la journée, et pourtant si simple et si naturel qu'il semble n'avoir rien fait. Il rassemblera l'eau, la verdure, l'ombre et la fraîcheur, car la nature aussi rassemble toutes ces choses. Il ne donnera à rien de la symétrie. Elle est ennemie de la nature et de la variété. Et toutes les allées d'un jardin ordinaire se ressemblent si fort qu'on croit être toujours dans la même. Il élagera le terrain pour s'y promener commodément, mais les deux côtés de ces allées ne seront point toujours exactement parallèles. La direction n'en sera pas toujours en ligne droite. Elle aura je ne sais quoi de vague, comme la démarche d'un homme oisif qui erre en se promenant. Il ne s'inquiétera point de se percer au loin de belles perspectives. Le goût des points de vue et des lointains vient du penchant qu'ont la plupart des hommes à ne se plaire qu'où ils ne sont pas. Ils sont toujours avides de ce qui est loin d'eux. Et l'artiste, qui ne sait pas les rendre assez contents de ce qui les entoure, se donne cette ressource pour les amuser. Mais l'homme dont je parle n'a pas cette inquiétude. Et quand il est bien où il est, il ne se soucie point d'être ailleurs. Ici, par exemple, on n'a pas de vue hors du lieu, et l'on est très content de n'en pas avoir. On penserait volontiers que tous les charmes de la nature y sont renfermés, et je craindrais fort que la moindre échappée de vue au dehors n'ôtât beaucoup d'agrément à cette promenade. Certainement, tout homme qui n'aimera pas à passer les beaux jours dans un lieu si simple et si agréable n'a pas le goût pur ni l'âme saine. J'avoue qu'il ne faut pas amener en pompe les étrangers, mais en revanche, on s'y peut plaire soi-même, sans le montrer à personne.